Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h04 sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h dans Estelle Midi avec Rémi Barre et Perico Légas, Emmanuel Dancourt et Jérôme Lavrieux. Avec vous, bien sûr, au 32-16 pour réagir à tous nos sujets du jour avec, dans un instant, l'appel de Fabien Roussel à réinvestir les ronds-points pour lutter contre l'inflation. Un grand retour des gilets jaunes est-il possible? On attend vos réactions. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. On s'intéressera au Black Friday. C'est dans 10 jours, mais le Black Friday est menacé cette année. On vous expliquera tout. 13h50, donc la minute conso. 14h, les sketchs des inconnus remis au goût du jour ce soir sur TF1, près de 30 ans après la fin de l'émission cultissime, la télé des inconnus. Les sketchs les plus sulfureux ont été mis de côté, évidemment. Alors, peut-on encore rire de tout à la télévision? On vous attend au 32-16 et sur l'application RMC. 14h30, RMC s'engage pour vous et Amélie Rosic qui va tenter d'aider Emmanuel, un auditeur qui vit un enfer depuis qu'on a installé des panneaux solaires chez lui. Et puis peut-être, Rémi, qu'on ouvrira le coffret RMC à la fin de l'émission.
Peut-être, parce qu'à quelques jours de la Coupe du Monde, RMC vous offre le meilleur équipement high-tech. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant coffre par SMS au 732-16. Si vous êtes sélectionné, vous repartirez avec le téléphone Samsung Galaxy M23 et avec le rétroprojecteur portable, ce qui vous permettra de regarder tous les matchs de la Coupe du Monde où vous le souhaitez. Et à ce moment-là, soit vous gardez votre cadeau, soit vous acceptez d'y renoncer et vous pouvez tenter d'ouvrir le coffre RMC avec à l'intérieur à gagner soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde, une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar. Alors est-ce que vous oserez ouvrir le coffre RMC? Eh bien vous envoyez coffre par SMS au 732-16, coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
Et on va tout de suite sur RMC s'intéresser à l'appel du jour. C'est celui de Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. Ce matin, il a exhorté les Français à réinvestir les ronds-points pour lutter contre l'inflation et faire passer des lois par la rue. Écoutez.
Si le gouvernement n'entend pas que la cocotte est en train de bouillir, si le gouvernement n'entend pas qu'il y a besoin de prendre des mesures fortes visant à s'attaquer à la spéculation, pas continuer de faire des petits chèques parce que ça nous coûte un bras, mais de s'attaquer aux causes de la spéculation, eh bien oui, il faudra pousser par tous les bouts, et s'il faut demain réoccuper les ronds-points pour dire stop, basta, il faut agir, eh bien il faut le faire.
Alors, le retour des Français sur les ronds-points, le retour des gilets jaunes, Rémi, on y a cru plusieurs fois, mais ça n'a jamais marché.
Qui s'en souvient ou qui s'en est rendu compte, le 12 septembre dernier, à l'appel de plusieurs collectifs, ce devait être la rentrée des gilets jaunes. Les revendications étaient nombreuses, sur fond de hausse des prix, notamment des carburants et de réélection d'Emmanuel Macron. Bilan, environ 8500 personnes rassemblées à travers toute la France. Un mois plus tard, c'est Jean-Luc Mélenchon qui bat le rassemblement, le dimanche 16 octobre dernier. Il appelle les Français à se rassembler dans ce qu'il décrit comme étant la conjonction de la mobilisation populaire, de la mobilisation syndicale et de la crise institutionnelle pour faire plier Macron. Le contexte est le même, inflation, hausse des prix, hausse des carburants notamment. Au final, ça marche sur Paris contre la vie chère et l'inaction climatique, réunit 30 000 personnes entre Bastille et Nation, malgré les multiples rappels en amont, malgré les cars affrétés et la mobilisation de la quasi-intégralité des cadres de la NUPES, 8 500 manifestants en septembre, 30 000 en octobre. À titre comparatif, le premier acte des Gilets jaunes, souvenons-nous, c'était le 17 novembre 2018. Ce jour-là, il y avait eu 290 000 personnes à travers toute la France.
Alors, faut-il croire à un retour des Gilets jaunes, Jérôme Lavrieux?
Non.
D'accord.
Mais non, c'est un aveu d'échec qu'un pré-responsable d'un parti politique qui a tant compté dans l'histoire de notre vie politique nationale, qui fait maintenant 1,5 ou 2% à des élections, en soi, a essayé de ressusciter un mouvement. Je rappelle que les Gilets jaunes, ils se sont créés sans leader politique. Les leaders politiques ont couru après Ils n'ont pas réussi à le rattraper. Et lui, il voudrait le précéder maintenant. C'est un aveu d'échec terrible. Ça montre l'effacement de certains partis politiques qui sont obligés de faire de l'incantatoire pour dire les Gilets jaunes vont revenir. Mais ils n'en avaient même pas eu l'idée quand ça s'est créé. Donc c'est ridicule. C'est un mouvement type Gilets jaunes, ça ne se décrète pas. Ça se constate. Ça prend forme de manière totalement spontanée. Sinon, c'est un appel à la bonne vieille manif. Et Rémi vient de nous le démontrer, qui n'a pas marché. On nous avait dit tout l'été, vous allez voir la rentrée sociale, ça va être explosif. Tous les ingrédients sont là. On vit une des pires crises économiques, sociales, géopolitiques. Et ça ne prend pas pour l'instant. Mais c'est pas parce que l'immense secrétaire général, l'héritier de Georges Marchais, va à la télé pour dire on va décréter une mobilisation générale que les gens disent oh bah j'y vais sur mes ronds-points, je sors tout de suite mes vieilles banderoles. Non, il n'y est pour rien. Il n'y était pour rien et il n'y sera pour rien si jamais ça repart et ce ne sera pas de sa faute.
Mais Emmanuel Dancourt, est-ce qu'il a raison sur le fond, Fabien Roussel? Est-ce qu'il faut que les Français se mobilisent? Là, on a l'impression, et c'est vrai que la CGT a essayé, Mélenchon a essayé, mais on a l'impression que les Français sont lassés.
Est-ce qu'il faut qu'ils se mobilisent? C'est pas ça le problème. C'est que on est en pleine, Jérôme l'a dit tout à l'heure, on va rentrer en récession. Les Français ont d'autres problèmes qui est d'assurer de pouvoir payer de l'essence, de pouvoir payer leurs vêtements, de pouvoir payer à manger. On ne parle que de ça depuis le début de l'émission. Ils ont plus les moyens. En fait, je dis pas que c'était un luxe de faire la grève avant, mais aujourd'hui, vu le contexte actuel, on a absolument plus le moyen de faire grève. Et moi, j'y crois pas du tout à une résurrection du mouvement Gilets jaunes. J'y crois pas du tout. Ou alors, si vraiment ça part, ça passera comme au début par capillarité sur les réseaux sociaux, mais jamais c'est un chef politique.
Vous voulez dire qu'il y a une résignation, en fait.
Ah oui, je pense très clairement qu'on est dans une résignation. Ah oui, très très clairement.
Ouais. C'est dangereux cet appel pour vous, Perico Légas?
C'est dangereux pour le gouvernement, mais Fabien Roussel a totalement raison. C'est héroïque ce qu'il fait.
Ah non.
Si, justement, parce qu'il constate l'impuissance. Mais oui, mais
il constate sa propre impuissance.
Il constate l'impuissance de la classe politique et il dit aux Français.
Donc devant, la sienne.
Mais non, la démocratie française est malade. La démocratie française est malade. La représentation nationale n'est pas conforme à la réalité du pays. Abstention massive, majorité relative, ça n'avance pas. On est en train de s'embourber.
Il y a le 49-3.
Et justement, le 49-3 formidable. Donc, à la réponse du 49-3, je passe en bloc. Eh bien, il dit aux concitoyens, en gros, c'est un aveu d'échec, c'est démerdez-vous, prenez les ronds-points.
Mais là, c'est la Bastille, quoi.
Oui, mais c'est son droit de, en tant que secrétaire national du Parti communiste français, il représente les gens qui sont dans la souffrance, dans le mécontentement. Il est en train de leur dire, de façon un peu délicate, nous, on peut plus. On n'a pas les leviers. Cette majorité, ce gouvernement, ils avancent en bloc. La situation est effectivement pour certaines catégories sociales intenable. Et on l'a dit tout à l'heure.
Bien sûr.
On comprend pas comment ça a pas déjà pété. Les gilets jaunes, c'est 80 km/h et 20 centimes. Oui.
Mais on est mais au début, à une année pacifique. Et
d'accord,
mais
on est à une année lumière. Non, les causes des gilets jaunes sont infiniment moins graves et violentes que la situation qu'on a aujourd'hui. Donc oui. Quand le patron du Parti communiste dit, eh ben écoutez, sortez dans la rue. Au moins on sait que lorsque vous sortez, ce que je vous disais, si vous sortez dans la rue, il s'agit pas de tuer, de casser. Prenez la place publique, faites une manifestation massive, vous verrez, le pouvoir réagira. Et il a raison. Il est courageux de dire ça.
C'est pas lui de le dire.
Ça viendra
des Gilets jaunes.
Alors, les grands
même.
Mouvements historiques de l'histoire n'ont jamais été déclenchés sur commande.
Par des partis politiques.
Ni la prise de la Bastille.
Ni mai 68.
Voilà. Ni 36, ni les grèves. Ça a échappé. 68 encore moins. Bien sûr, c'était une histoire de dortoir. De filles et de garçons à la fac de Nanterre. Vous voyez? Et les Gilets jaunes encore moins.
Et c'était le plein emploi et c'était les 30 glorieuses.
Et tout se passait bien. Aujourd'hui, il y a une torpeur qui est consécutive à cette épidémie.
Non, la torpeur, c'est un peu, vous savez, quand on est l'été, non, non, comme ouais. Ça. La torpeur, c'est un côté positif.
L'épidémie,
la fatigue, non.
La pandémie a montré à notre société, à notre civilisation, oui, qu'il y avait un danger plus grave, qui pouvait être la mort, la maladie. Ensuite, on a une guerre qui est là, et les gens se disent, si j'y vais, est-ce que je ne vais pas encore perdre le peu?
C'est ça.
Me reste.
Ah, c'est ça. Voilà. Il y a de la fatigue, donc, de la lassitude,
sauf que,
de la résignation.
Attention, il y a des gens qui sont de plus en plus nombreux à arriver au bout du rouleau. Ils ont plus rien à perdre. Le jour où il y aura une conjonction de cette souffrance et de ce désespoir, là, ça peut ouvrir la porte. Ou pas.
Ça peut
tenir 15 ans comme ça. Mais ça peut aussi ouvrir sur le plus violent fracas social qu'on aura jamais connu dans ce pays.
Ouais.
Voilà.
Alors, on a beaucoup de messages. On va en lire quelques-uns avec vous, Rémi, puis on prendra Jean-Philippe au téléphone dans un instant.
Ce message de Fabrice, par exemple, sur l'application Direct Studio, il a raison, il parle de Fabien Roussel, de vouloir lutter contre l'inflation, mais on aura des débats sur le fait que des manifestants bloquent des gens qui veulent aller travailler et on oubliera l'essentiel. Bref, le système engloutira tout ça une fois de plus. Il y a pas mal de messages qui vont dans ce sens.
C'est possible.
Dans le sens de, voilà, nous, ce qu'on qu'on veut, c'est travailler aujourd'hui. On se débrouille comme on peut. Il y a une certaine résignation. Et on n'a pas besoin. Et on n'a pas besoin que l'économie soit bloquée ou que qu'il y ait des violences.
Alors, on est avec Jean-Philippe qui nous appelle de Guiscard dans l'Oise et qui est en formation pour devenir moniteur d'auto-école. Bonjour Jean-Philippe.
Oui, bonjour. Vous m'entendez bien?
Oui, très bonjour. Bien, Jean-Philippe. Et merci d'être avec nous sur RMC.
D'accord, bah c'est moi qui vous remercie de me recevoir. En fait, je vous appelle, ouais, parce que bah aujourd'hui, je suis un cas assez concret du sujet que vous avez parlé avant par rapport au carburant et en même temps en parallèle avec les gilets jaunes, parce qu'en fait aujourd'hui, j'ai pas pu me rendre à ma formation. Je suis une formation depuis le mois d'avril et là j'ai pas pu m'y rendre à cause du prix du gasoil, tout simplement. Je suis arrivé au bout de, on est le 14 du mois et là je ne peux plus. En fait, je sais même pas comment je vais faire pour les autres jours. Je n'arrive plus à mettre à suivre parce que ma formation se situe à 90 km de chez moi et j'ai aucune indemnité de Pôle emploi. Donc là, je suis en rémunération de fin de formation, c'est-à-dire 680 euros. Et je ne sais pas comment je vais pouvoir finir ma formation qui doit se terminer en décembre. Je ne sais pas comment je vais faire. Et du coup, voilà, par rapport aux Gilets jaunes, je me dis bah que cette fois, je vais y aller. Je n'ai pas été aux dernières manifestations des Gilets jaunes, mais là, j'en ai vraiment ras-le-bol et j'attends que ça pète et je vais y aller. Je vais aller manifester cette fois.
Oui, mais ça veut dire quoi, j'attends que ça pète, Jean-Philippe? Vous attendez qu'on vous écoute, en fait, qu'on vous entende?
Comme l'a dit justement Monsieur Péricot, il y a que ça pour faire bouger les choses. J'ai une expérience en fait. J'ai subi un plan social et c'est un parallèle. Hein, je vous explique vite fait. Pour obtenir en fait des négociations tripartites, il a fallu qu'on casse une sous-préfecture. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire continentale en 2009. Et pour avoir ne serait-ce qu'un dialogue, il a fallu effectivement qu'on passe par la violence, malheureusement.
Mais c'est grave, Jean-Philippe, ce que vous dites.
Bah ouais, peut-être, mais c'est grave aussi.
Parce que la violence, ça peut être aussi faire souffrir ceux qui ont encore moins que vous, en fait. Enfin, donc.
Peut-être, mais attendez, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas détruit de vitrine, on s'est attaqué à l'État, parce que voilà, oui, effectivement, l'État nous a ignoré à ce moment-là.
L'État, c'est nous, c'est vous.
Comme vous l'avez dit, quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, là, l'État, il a trouvé de l'argent. Donc, à un moment donné, là, c'est plus possible. On arrive à un moment donné, on se prive, je ne bouge plus le week-end, je fais rien, et j'arrive même plus à bouger la semaine pour aller à ma formation, quoi.
Mais bien sûr, non, mais c'est dramatique ce que vous décrivez, Jean-Philippe.
C'est le problème de beaucoup de monde et là, ça devient infernal. Et cumulé avec aussi les dysfonctionnements Pôle emploi, tout ça, enfin, c'est encore d'autres sujets. Mais voilà, tout ça pour dire que ça devient infernal. Aujourd'hui, quand j'ai vu votre sujet, en fait, j'ai dit, faut que je réagisse parce que là, concrètement, c'est mon cas aujourd'hui. Je n'ai pas pu me déplacer pour aller me rendre à mon lieu de formation. Et donc c'est le choc, le serpent qui se mord la queue.
Et l'accumulation aussi, ce que vous dites. Et l'accumulation aussi.
L'accumulation. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'on met de l'essence pour aller travailler, mais on travaille pour mettre de l'essence actuellement. Et à un moment donné, ça tient plus. On peut plus.
Oui, et puis la vie, c'est pas que le travail, ça. Vous avez besoin aussi, le week-end, de pouvoir faire autre chose et puis de pas penser que il me reste 20 euros pour terminer le mois. Ça, c'est juste pas possible. Merci beaucoup, Jean-Philippe, en tout cas de nous avoir appelé, d'avoir témoigné sur RMC. Notre invité sur ce débat, c'est Louis Chauvel. Il est sociologue, chercheur à l'Observatoire français des conjonctures économiques et auteur de Les classes moyennes à la dérive aux éditions du Seuil. Merci, Louis Chauvel, d'être avec nous.
Bonjour.
Louis Chauvel, ça va exploser ou pas, à votre avis, là, dans quelques semaines en France?
Dans quelques semaines, personne ne peut vous le dire, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, les dynamiques qui sont celles de la société française depuis 10, 15, 20 ans sont une accumulation de tensions. Et c'est un petit peu comme en Californie. On ne sait pas quand il va y avoir un énorme tremblement de terre. Oui. On ne sait pas où, on ne sait pas avec quelle intensité. Mais c'est clair que plus il tardera, ce grand tremblement de terre, plus il sera douloureux. C'est-à-dire qu'il faut mieux une série de petits mouvements telluriques, de petits tremblements de terre les uns après les autres, comme c'était le cas dans les années 60-70, où les syndicats, le Parti communiste français, si vous voulez aussi, faisaient leur job, si on veut, de mobilisation. Là, quand on est dans un système de plaques bloquées, les tensions s'accumulent, et les tensions, on les connaît bien. Les Français sont de plus en plus frustrés, ça s'explique par 10 000 façons, mais notamment, il y a le fait que les gens sont de plus en plus diplômés, avec des niveaux de formation qui sont en général 3 années de plus d'études que leurs propres parents, et avec plusieurs formations successives. Les revenus n'augmentent pas, voire ils baissent. L'inflation est le message que tous les secteurs d'activité où il n'y a pas de possibilité de pression sur les employeurs, va y avoir des tensions. On est en sortie de Covid, en plus, les gens sont épuisés. On peut parler d'un burn-out collectif assez général, systémique dans la société française. Et il y a un élément supplémentaire qui rajoute des tensions, c'est la fragmentation. C'est-à-dire qu'en fait, naguère, dans les années 70, les gens allaient à peu près tous dans la même direction. Aujourd'hui, avec ce système de fragmentation généralisée, il n'y a pas deux voisins qui ont la même existence et la même situation, selon que vous soyez propriétaire ou pas, selon que vous chauffez à l'électricité, au gaz, au diesel, enfin au fioul, et ainsi de suite. Tout le monde se trouve sur des plaques qui vont dans des directions opposées. Et puis, selon que vous pouvez espérer un héritage ou avoir, si vous avez une famille un peu aidante, vous pouvez laisser voir venir encore.
Et c'est pas très gai, votre tableau.
Pardon ?
C'est pas très gai, le tableau que vous dressez.
C'est pas très gai. La réalité, c'est que tant qu'on ne retrouvera pas une façon de relancer une dynamique collective dans le pays, c'est-à-dire une forme de consensus vers des éléments d'effort qui ne sont pas que les efforts des travailleurs, mais aussi de l'ensemble de la société, on n'arrivera plus à avancer. C'est-à-dire chacun souhaite prendre sa grosse bouchée dans le gâteau, dans le gâteau collectif et partir dans son coin. Malheureusement, cette situation-là, qui est une situation qui s'amplifie avec l'individualisme généralisé qu'on connaît depuis une génération, cette direction-là ne va absolument nulle part.
Oui, mais justement, ce que dit Fabien Roussel, c'est il faut que les Français aillent dans la rue. Est-ce que pour vous, en tout cas Louis Chauvel, est-ce qu'il y a une possibilité que les Français descendent dans la rue? Parce qu'on le disait aussi, il y a une fatigue, il y a une crainte, on sent qu'il y a une lassitude dans le pays qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, malgré tous les facteurs que vous avez énoncés, on n'est pas du tout sûr que ça pète, quoi.
On n'est pas sûr que ça pète là, mais il est certain que ce niveau d'épuisement, qui est aussi un épuisement moral, je veux dire une forme d'excitation assez mauvaise, c'est quelque chose qui peut revenir d'un seul coup sur des éléments presque de détails. Ce n'est pas Fabien Roussel qui a le bouton rouge qui permette de déclencher le mouvement social, mais la réalité c'est là que la France est un peuple qui en Europe est peut-être plus réactif que d'autres et plus habitué à prendre la rue, à aller dans la rue pour essayer de faire changer la démocratie ou tout un ensemble de choses, mais cet état d'épuisement et d'énervement n'est pas de bon augure pour les gens qui espèrent le calme dans la société française et dans la politique française.
Alors justement, on est avec Martial qui nous appelle de Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes et qui est prêt, lui, à descendre dans la rue. Bonjour Martial.
Bonjour Estelle.
Martial, vous êtes prêt à y aller, quoi?
Non, je suis gilet jaune. J'ai participé pendant 3 ans aux manifestations, dont les premières. Alors la question Fabien Roussel, reprendre les ronds-points. Bah moi je vais faire, je vais expliquer à Monsieur Roussel puisque je suis sur l'antenne. Là je vais expliquer. Nous les ronds-points, quand on voulait les prendre du côté de Nice, on avait les forces de l'ordre en face de nous. Si vous approchez des ronds-points, vous aurez affaire à nous. Voilà. D'accord. Donc je sais que sur Cagnes-sur-Mer, on avait réussi un week-end, un samedi, à négocier. On avait tenu le rond-point tout le samedi, tout s'était très bien passé. On avait même été mettre le péage de Cagnes-sur-Mer en gratuit une bonne partie de l'après-midi. Quand on arrive à négocier avec les forces de l'ordre, à condition d'avoir quelqu'un qui nous écoute en face de nous et qui est compréhensible, ça se passe bien. Mais sinon,
ouais, mais il dit les ronds-points, en fait.
Ça dépend du préfet.
On est complètement morflé. lacrymo, entre les prisons, entre les amendes, entre les yeux éborgnés, que ils vont pas y retourner de sitôt. Maintenant, le point qui peut faire tout chavirer, ça sera déjà, ça sera pas avant la Coupe du Monde de football, parce que il y a la Coupe du Monde de football. Mais oui, après la Coupe du Monde,
les matchs sont le midi. C'est pas une Coupe du Monde comme les autres.
Monsieur Macron a dit, je vais remettre la taxe pour les poids lourds sur l'écologie. Les bonnets rouges, les gilets jaunes, les transporteurs, les citoyens en colère, les citoyens pauvres qui peuvent même pas offrir un cadeau à Noël à leurs enfants. Là, ça peut être la goutte d'eau, ça peut être l'étincelle, ça peut être la mèche qui va foutre le bordel.
Oui, c'est ce que nous disait d'ailleurs un petit transporteur tout à l'heure. Alors en fait, quand Fabien Roussel dit on va réinvestir les ronds-points, je pense que c'est pas les ronds-points, il dit faut descendre dans la rue. En fait.
Le vase est plein. Ah, mais la goutte ne passe pas.
Mais enfin, on n'arrête pas de dire que le vase est plein.
J'ai regardé ce matin là, pour vous retrouver les chiffres dont je parlais depuis tout à l'heure. Ça fait 3 ans. Que tous les mois, très régulièrement, on dit c'est le retour des gilets jaunes.
Bien sûr.
Ah, moi, je dis pas ça, je dis que le vase est plein, mais il peut rester plein.
Enfin, il est plein de
il peut rester plein 5 ans, comme ça, il est plein. Le symbole politique, c'est ce qu'on est en train de dire. Le vase est plein. Est-ce que la goutte, elle peut ne pas verser, il suffit, voilà.
En fait, il faut trouver quelle sera la goutte. C'est ça le truc, parce qu'aujourd'hui.
Dans l'histoire, on n'a jamais su.
Il y a tellement de gouttes qu'en fait, voilà.
Et n'oubliez pas un truc, collectivement, les Français sont très pessimistes pour eux tous.
Bien sûr.
Pour le pays. Individuellement, ils sont en grande majorité optimistes pour eux-mêmes. On n'en parle pas toujours de cela. Mais vous avez entre 70 et 80% des Français qui sont optimistes pour leur avenir.
Alors, ils sont de moins, Jérôme.
Mais si on les interroge sur leur avenir collectif.
Mais Jérôme a raison, mais ils sont de moins en moins nombreux.
Il y a plein de gens qui ne veulent pas aller manifester.
Il y a plein de gens qui souhaitent pouvoir
se déplacer pour aller travailler tous les jours aussi.
Jérôme, en même temps, les gens qui sont au bord du désespoir, comme nous en entendons dans cette émission depuis 2 ans, sont de plus en plus nombreux. Et c'est pas des gens violents, c'est pas des gens qui sont mobilisés. À un moment donné, ça bascule quand ces gens vont dire, les gilets jaunes, c'est des gens qui n'imaginaient pas une seule seconde, quelques mois avant,
bloquer des...
Tout d'un coup, à un moment donné, il se passe en soi quelque chose qui dit, je vais y aller. Et c'est là où la révolution bascule.
Mais ce sera pas forcément les gilets jaunes, c'est un truc qu'on n'aura pas vu arriver.
Je dis que ça sera une autre couleur de gilet.
Pour ça que Roussel se plante en disant, faut que les gilets jaunes vous redescendiez.
Les gilets jaunes, l'épisode est terminé. Oui. Voilà, c'est fait, il a marché,
il
a
eu. Un autre mouvement.
Ça sera une autre couleur de gilet, ça sera un autre vêtement.
On a toutes les couleurs, entre le rouge.
On a assez d'imagination pour trouver le vêtement et la couleur qui font que la couleur du peuple français ira dans la rue. Espérons que ça sera de la dimension des gilets jaunes. C'est-à-dire, pas trop de casse. Et là, ce que
de manière pacifique.
Hein. Mais rien par rapport à ce que ça pourrait être. Ça peut être des émeutes en novembre 2005. Non. En novembre 2005, il y a eu le couvre-feu. Non. Vous n'imaginez pas le niveau. Vous imaginez le niveau de désespoir de certaines banlieues, de certains quartiers, où on ne sait pas quel est le cocktail qui réunit, c'est quoi les ingrédients qui sont là. S'ils mettent ensemble, c'est AZF Toulouse. C'est boum. Ou pas, mais là on est dans les apprentis sorciers et on a un gouvernement qui, je peux vous dire, et les déclarations de genre, ils en savent plus que nous. Ils sont en train de débattre, ils en savent 10 fois plus que nous. Ils savent exactement comment ça se passe et je peux dire qu'ils sont extrêmement inquiets pour rester mesurés.
Oui, d'accord.
Alors, moi, je pense qu'ils en savent pas plus que nous, mais qu'ils sont inquiets.
Ils ont des éléments.
Plus que nous, vous voyez ce que je veux dire.
Pas sûr.
Ils ont des paramètres.
Les gilets jaunes, ils ont tous été un peu surpris. Ouais.
Ils ont des pires. Ouais. Ils ont des paramètres. Et quand on a baissé l'essence, à un moment donné, personne ne s'attendait à ce que ce soit ce genre de mesure. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Mais c'est repousser la goutte pour qu'elle déborde pas.
Enfin, il suffit d'écouter les Français pour voir qu'il y a quand même un truc qui va pas dans ce pays.
Et donc, vous verrez que début janvier, on aura une bonne aide sur l'essence qui s'adressera à tout le monde pour calmer tout le monde.
Écoutez, nous verrons.
Il y a toujours 10 milliards qui tombent en fin d'année. Depuis 3 ans.
On va terminer avec des messages, Rémi.
Allez, ce message de Mars qui nous dit gilets jaunes 2.0, grève des factures, plus besoin de ronds-points, fini, ne payons plus le loyer, le plein de courses, etc. Ils ne pourront pas tous nous mettre en prison. Bon, ça paraît. Ça prête à sourire, mais il n'empêche que ce type d'appel avait été lancé en Grande-Bretagne.
À la désobéissance en Italie.
De ne plus payer les factures d'énergie.
Sans aucun effet.
J'allais préciser.
À part des reportages en France, sans aucun effet en Grande-Bretagne.
Voilà, exactement, j'allais préciser, et le mouvement a été très peu suivi.
Bien sûr.
Si ça marche, Vous vous souvenez Cantona, quand il avait dit
mais tu peux toujours prévoir le pire et en disant je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera.
Attendez, mes amis, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent de conflictuel et de tragique était imprévu et beaucoup de gens aussi lucides que toi avaient dit les gilets jaunes, ça n'existera jamais.
Ah non, pas du tout.
Alors pas de quoi, mais ta caste, ta caste.
Ça va, ta caste. Entre toi et moi, la caste.
Oui, il y a un papier de cigarette.
La caste à fleurs.
Allez, dans un instant, ce sera le zapping, le meilleur des RMC. On va se demander si Marine Le Pen peut être présidente, tiens, en 2027. Faut-il se réjouir du retour des maths au lycée? C'est pour l'année prochaine. Et puis, tiens, la grève des labos jusqu'à mercredi. Est-ce qu'elle est légitime, cette grève? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h32 sur RMC, RMC Story. On est de retour dans Estelle Midi avec Rémi Barré, Perico Légas, Emmanuel Dancourt et Jérôme Lavrieux. Et tout de suite, c'est le moment du meilleur d'RMC, le zapping.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va tout de suite démarrer ce zapping avec un extrait des Grandes Gueules ce matin. Retour sur l'entretien donné par Marine Le Pen au JDD hier, dans lequel elle assure qu'elle se représenterait pour présider le pays, mais pas pour le gouverner. L'ancienne présidente du Rassemblement National qui vise, sans grande surprise, l'Élysée sans passer par la case Matignon. Une ambition qui s'entend pour Charles Consigny, l'avocat des GG qui estime que les Français en ont ras-le-bol et sont prêts pour un changement radical.
Elle s'est affirmée au fil des années, même si je crois qu'elle est toujours insuffisante et ses débats avec Emmanuel Macron l'ont montré.
Oui.
Donc je pense par ailleurs que je veux pas faire de Macron bashing systématique, mais il m'y contraint un peu. Je pense par ailleurs qu'il a renvoyé une telle image d'injustice et un tel foutage de gueule pour dire les choses comme elles sont que je crains qu'il y ait aussi un phénomène de sanction et une volonté de changement radical par rapport à ce qu'était Macron et le macronisme. Je pense aussi tout simplement qu'elle n'a pas la même désinvolture qu'Emmanuel Macron par rapport à la charge que représente la présidence de la République.
Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme Lavrieux? Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi?
Jérôme est fâché. Je suis en désaccord total avec tout ce qu'il vient de dire.
Voilà. Ah d'accord. Ouais. Bon.
Mais c'est... Le mec se met à tresser des louanges en comparant Marine Le Pen et Emmanuel Macron, etc. C'est de la politique fiction complète ce qu'il vient de nous faire.
Oui, la question c'est, accédera-t-elle un jour à l'Élysée? Donc oui, de toute façon c'est de la politique fiction, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, non mais la question c'est de savoir, ces déclarations, je n'irai pas à Matignon, je vise directement la case Élysée.
De toute façon personne ne propose Matignon.
Bah voilà. Bah voilà, merci.
Mais tu n'y crois pas, toi, merci. Jérôme, qu'elle puisse accéder en 2027? Moi, ça me fait très peur, parce que je pense que quand tu vois ce qui se passe en Europe, en Italie, en Suède, etc., tu dis que les vents sont favorables pour les partis d'extrême droite, quand même.
T'as vu à chaque fois le débat du second tour?
Ouais. Ah, bah non, mais bien sûr, évidemment qu'il n'y a pas de photo.
Bah oui, bah alors.
Évidemment qu'il n'y a pas de photo. Ouais, mais sur un ras-le-bol, Zemmour n'est plus un élu.
Au Pays-Bas ou en Belgique,
Zemmour n'est plus un problème.
Il y a juste un truc qui vous échappe, c'est le mode de scrutin français. En Suède, la coalition des partis qui sont au pouvoir font 30%. En Italie, ils font 30%. Mais nous, il faut faire 51%, 50% plus une voix au second tour entre les deux candidats.
Voilà,
c'est pas du tout le mode de scrutin.
Bah oui, pour la présidentielle. Bah oui,
c'est
pour
pas
la
du tout le mode de scrutin. C'est dans des coalitions. Ah, moi, je pense que, par principe, par construction, il ne faut jamais dire ils n'y arriveront jamais.
Bah voilà.
La démocratie, c'est tu rentres dans un isoloir et tu ouvres une urne à la fin pour savoir ce qu'il en sort. Donc, on ne peut pas le savoir. Les sondages peuvent aussi se planter et ils se plantent régulièrement. Donc, mais dans le comportement, dans ce que l'on fait, il faut tout faire pour mon avis personnel, que ça n'arrive pas. Mais,
évidemment.
Mais ceci étant, c'est dans très longtemps.
Ouais.
C'est pour ça que je disais que c'était n'importe quoi ce qu'il disait. Il fait comme si Macron allait se représenter.
Oui, mais il se représentera pas, il ne peut pas.
Bah, Macron ne peut pas se représenter. Vous savez qui va y avoir en face?
Ben non, mais c'est
dis-le-nous.
Oui, mais moi j'en sais rien.
Non.
Bah Édouard Philippe.
Non.
Bah peut-être.
Oh, bah Édouard Philippe, non, ça paraît évident.
Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse.
Ce serait étonnant.
Valérie Pécresse a trouvé ça tellement extraordinaire, peut-être qu'elle va vouloir y retourner. François Bayrou.
Mais non. David Lisnard.
Pourquoi pas? David Lisnard, ça fait beaucoup de monde.
On en parle, hein.
On n'en est pas là encore.
Non.
Perico Légas, vous y croyez, vous?
Alors, j'ai un doute pour avoir tellement réfléchi, discuté, échangé avec vous, avec nous, avec bon. Il est vrai que le patronyme Le Pen est un problème. Voilà. Alors, il n'y aurait pas le patronyme Le Pen et même la jeune Marion Maréchal, qui s'appelle Maréchal. Déjà, on sent que de la part des médias, il y a une indulgence. Le plafond de verre psychologique. Oui, oui. La façon dont les médias traitent Marion Maréchal sur un plateau de télé et dont on traite Marine Le Pen n'a rien à voir. Vous voyez, c'était déjà, et les Français considèrent qu'elle est pas si méchante que ça, alors qu'elle est beaucoup plus à droite que sa tante. Marine Le Pen, elle porte le patronyme Le Pen, elle est la fille de Jean-Marie. Ça peut, à un moment donné, faire que on bascule pas au 51%. Ça serait Monsieur Bardella, ça serait totalement autre chose. Là, on ouvre une. Cette mouvance politique aujourd'hui, elle est prête à prendre le pouvoir. Elle montre d'ailleurs plutôt un comportement assez responsable dans le comportement à l'Assemblée nationale.
Ça dépend des jours. Grégoire de Fournas la semaine dernière.
Grégoire de Fournas, je regrette qu'on soit pas allé. Ce qu'il a dit est lamentable. Si c'est au singulier, c'est ignoble.
Faire le débat là.
Il a très très mal exprimé.
Marine Le Pen l'a très mal pris.
Quand tu es dans l'hémicycle, tu te maîtrises.
Oui,
c'est elle-même qui l'a dit.
Elle aurait dû d'ailleurs peut-être, mais le problème n'est pas là. Mais la réaction qui a eu lieu, elle est disproportionnée par rapport à la réalité du problème. Et ses
propos peut-être aussi parce que c'est un danger. Parce que aussi aujourd'hui, le RN fait plus peur qu'avant, quoi.
Alors le RN aujourd'hui fait beaucoup moins peur qu'avant et il fait de moins en moins peur jusqu'au jour où il aura le pouvoir.
Peur à ses opposants politiques.
Qui sont de moins en moins nombreux. Donc effectivement, aujourd'hui l'enjeu est ouvert, elle peut gagner. Alors sous quelle forme elle gagnera ? Ensuite il faut gagner les législatives, hein. On est en France.
Bah oui.
Voilà. Et pour l'instant, le système est encore couplé. Donc on est dans l'expectative la plus totale. Mais scientifiquement, oui. Oui, la candidate ou le candidat du Rassemblement National peut aujourd'hui devenir président de la République, ça c'est évident.
Apolline Matin, ce matin, la grève des laboratoires est-elle légitime ? Une grève illimitée a lieu actuellement dans la plupart des laboratoires d'analyse de France. Ces derniers ont gagné plus de 7 milliards d'euros grâce aux tests Covid, mais le gouvernement souhaite aujourd'hui faire des économies. Les explications d'Emmanuel Lechypre.
Il est impossible aujourd'hui et pour au moins 3 jours de faire une prise de sang ou une analyse d'urine dans un laboratoire d'analyse médicale. Seules les analyses urgentes seront réalisées. Alors ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'annonce fin septembre dans le budget 2023 de la Sécurité sociale d'une réduction de 250 millions d'euros des remboursements sur les actes de biologie courante. Autant de manque à gagner pour les labos.
Pourtant, les labos, ils ont quand même gagné beaucoup d'argent pendant la crise sanitaire.
Ils en ont gagné effectivement énormément puisque leur chiffre d'affaires a presque doublé à 9 milliards d'euros. Et puis la Sécurité sociale, du coup, a dû débourser 7 milliards pour financer les dépistages du Covid réalisés dans les laboratoires privés, ce que ne contestent pas d'ailleurs les syndicats de biologistes. Mais ce qu'ils redoutent, eux, eh bien, c'est que ce coup de rabot de 250 millions de la Sécu soit totalement pérenne et reconduit d'année en année.
La grève des labos est-elle légitime, Emmanuel Dancourt ?
Il faut savoir que les labos sont rachetés en majorité par des fonds d'investissement. Si Exactement. Les fonds d'investissement rachètent les labos, c'est bien parce que c'est hyper rentable. Les labos, comme ça a été très bien expliqué, se sont gavés, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, pendant la pandémie. Donc l'État peut faire pression, a les moyens de faire pression.
Il les trouver quand même.
Toujours est-il que l'État a les moyens de faire pression pour qu'il fasse des efforts de productivité. Donc on peut penser que c'est un juste retour des choses. Après, c'est dommage que finalement les fonds d'investissement, c'est ça aussi qu'il faut voir, ils font du beurre sur le dos de la Sécu aussi. Voilà, donc c'est des fonds d'investissement. Le principe d'un fonds d'investissement, c'est de prendre des risques le plus limité possible, mais de prendre des risques quand même. Et on en arrive à cette situation-là. Et le fait qu'ils ont dit, ils ont peur que ce soit pérenne et que ce soit tous les ans, oui, certainement. Mais en même temps, on peut faire pression sur eux parce qu'ils ont l'argent.
Oui, les labos peuvent faire aussi pression parce que pour le coup, effectivement, quand vous avez des analyses à faire, aujourd'hui, il y a juste les urgences.
Il y a des tonnes de labos.
Oui, mais il y a des tonnes de labos, mais c'est-à-dire, quand tu as les analyses, mais mettons, tu as une infection urinaire, je te dis n'importe quoi, tu dois aller faire des analyses rapides. Bon, vous êtes une femme, donc vous comprenez. Tu dois aller faire des analyses rapides. Franchement, si tu es obligé de faire 4 labos, ça va pas t'amuser. Hein.
On est en train de parler
des labos en moyen de pression.
Mais bien sûr.
Là, il y a plein de Français qui sont embêtés ce matin parce qu'ils peuvent pas aller faire leurs analyses. Ils ont raison de faire grève ou pas les labos, Jérôme?
Ah non, mais je trouve ça totalement scandaleux.
Ah bon ?
Non, mais faut être raisonnable. La période, on en revient au quoi qu'il en coûte. Ils ont bénéficié à fond du quoi qu'il en coûte. 48 euros.
Plus que tout le
48
monde.
48 euros payés par la Sécu, le test. Le seul pays au monde à avoir payé rubis sur l'ongle ce tarif.
Mais la Sécu avait qu'à pas payer ce tarif-là.
Eh ben, on est bien d'accord, mais maintenant, il faut revenir. Franchement, au fond d'eux-mêmes, ils savaient que ça allait pas durer aussi longtemps que les impôts locaux.
Mais l'erreur initiale, c'est celle de la Sécu.
Il faut revenir sur le terrain. La Sécu, elle a dit je paye pour que ça aille le plus vite possible.
Voilà.
Maintenant, la fête, elle est terminée. Donc, il faut revenir sur Terre.
Jusqu'à la prochaine.
Et les labos, ils vont pouvoir se faire un grève une journée, deux jours.
Oui, là, c'est au moins jusqu'à jeudi. Hein.
Oui, très bien.
Bah, c'est pas beaucoup.
Mais de toute façon, 100% de leurs recettes, c'est de l'État. Hein, c'est la Sécu.
Oui.
Donc, ils sont dépendants de cela. Donc, à un moment, ils vont se mettre autour de la table. Ce matin, un de leurs représentants disait « Ah, on est d'accord sur les 250 millions, mais pas sur la méthodologie. » Donc, ils vont bien se mettre d'accord. Les prix vont baisser. Ça fait 1 milliard d'économisés sur 4 ans. Par rapport aux milliards qui se sont mis,
voilà.
Ah, franchement, je vois pas les milliers de Français au balcon en train de dire.
Non, ce sera pas le retour des gilets jaunes pour aider les biologistes. Voilà, on est
bien d'accord.
En plus, faut être rassurant.
Ce sera pas la goutte d'eau.
Chacun revient sur terre.
En plus, faut être rassurant et optimiste pour eux. Il va y avoir d'autres épidémies encore plus épouvantables. Oui. Donc des milliards de
Le retour de la variole du singe.
Ça, c'est scientifique.
Non, la variole du singe, c'est fini. On va passer
au passage. Aujourd'hui, si j'investissais, j'investirais dans un laboratoire. En revanche.
Il n'y a plus de petits labos. C'est fini. C'est que les fonds de pension.
Mais c'est bien, je l'ai bien compris. En revanche, ce qu'on m'a
signalé. Emmanuel a bien résumé la situation.
C'est que s'il y a des restrictions de couches chez les laboratoires, ça demande beaucoup de précision et de rigueur. Et se retrouver avec sa petite étiquette, son petit code barre sur la fiole d'à côté. Et surtout avec l'analyse de sang du voisin pour avoir le traitement en conséquence, ça peut avoir de mauvaises surprises. Voilà.
Normalement.
Surtout avec la ch'touille, alors que.
C'est toi qui vas avoir mon traitement pour l'infection urinaire.
Normalement, les labos vérifient, vous voyez, on vérifie votre prélèvement. Et puis, s'il y a un truc qui ne va pas, normalement, on se revoit.
Si on est très attentif et très rigoureux, mais imaginez qu'il y a un truc, vous voyez, il y a une petite étiquette quand elle le met. Moi, je dis, attention, c'est bien la mienne.
Et normalement, elle te demande, effectivement, la personne qui te prélève, si tu es bien né à telle date, si c'est bien ton nom, etc.
Parce que moi, je veux pas la cirrhose du voisin, ni du diabète de ma...
Chacun la sienne.
Ni de mon infection urinaire.
Allez, rapidement, les GG ce matin, faut-il se réjouir du retour des maths au lycée après avoir été supprimé en 2020. Le gouvernement vient de décider leur grand retour pour la prochaine rentrée. Un revirement qui agace beaucoup Barbara Lefebvre, l'ancienne enseignante.
Bien de la filière générale dès de la rentrée 2023. On s'en fout pas. Barbara.
On s'en fout pas.
Charles.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas.
Eh ben, Barbara, dis-nous pourquoi.
Non, on s'en fout pas parce que c'est bien le signe de la catastrophe qu'a été cette réforme Blanquer pour le baccalauréat. Je pense que les gens qui n'ont pas d'enfants au lycée ne se rendent pas compte. Ma fille n'est pas encore au lycée, mais ils ne se rendent pas compte de la calamité qu'a été cette réforme. Et là, encore une fois, on fait une petite retouche. Une petite rustine. Donc, bien sûr, il faut se féliciter de cette heure et demie. Mais alors, il paraît qu'il y a 400 profs de maths qu'il va falloir aller chercher pour la rentrée 2023. Je leur souhaite bien du courage. Et donc là, encore une fois, bien sûr, un pas en avant, trois pas en arrière, c'est le travail des amateurs. Et donc là, ben voilà.
Parce que c'était Blanquer, il n'y a pas longtemps.
Voilà,
Perico Légas.
Alors, c'est surtout la preuve que le ministère de l'Éducation nationale, je retirerai aux compétences universitaires de M. Pamdiaï, qui est très bien, mais c'est visiblement pas lui qui n'y connaît rien. Ça veut dire que le ministère de l'Éducation nationale est dirigé depuis un cabinet qui est à l'Élysée, le Conseil d'éducation, et des énarques ont dû pondre qu'il fallait revenir, et lui, il va appliquer, c'est un notaire, en fait. Comme beaucoup de ministres, d'ailleurs, aujourd'hui, ils appliquent les consignes parce que c'est décidé à l'Élysée ou dans le directeur, chez le directeur de cabinet de la Première ministre. Mais là, c'est bien la preuve que le ministère de l'Éducation nationale n'est pas dans le coup. Voilà, pas du tout. Il ne sait même pas de quoi il s'agit.
Pas du tout. C'est la preuve que quand on dit aux gens, vous prenez vos responsabilités et vous faites vos choix vous-même, c'était ça cette réforme, on choisit les matières que l'on veut suivre, et ben les gens ne sont pas raisonnables. Et des gens très libéraux qui nous disent que l'État se mêle de tout, qu'il devrait se mêler de moins, ils demandent que ce soit l'État qui, à nouveau, choisisse les matières pour les familles et pour les élèves. C'est ça qui s'est passé quand on a laissé le libre choix. Tout le monde a dit les maths. Je peux vous dire que ça aurait été à l'époque de mon bac. Moi aussi, j'aurais dit les maths. Walou, j'en fais plus. Et j'aurais une mention au bac. Malheureusement, j'ai eu 6 en maths. Mais ceci étant, c'était intéressant d'en faire quand même. Donc c'est la preuve qu'on ne peut pas demander à chacun de faire de l'autogestion, y compris pour son propre bac.
Mais cette réforme, elle n'est pas bonne.
Voilà, je suis d'accord.
Quiconque a des enfants scolarisés.
On a fait la démonstration qu'on ne peut pas faire toujours confiance à la responsabilité individuelle et personnelle et que l'État n'est pas toujours à côté de la plaque quand il définit des programmes et des matières obligatoires, même à ceux que ça embête.
Alors moi j'ai des jumeaux qui sont en première, donc ils sont
les mettre en seconde.
Plein là dedans, ben voilà. Eux ils étaient ravis, hein. Ils étaient ravis que les maths sautent, hein. Donc ils sont pas ravis. Voilà. J'en ai
elles
un
vont
notamment.
Pas vraiment sauter en plus.
Il y en a un, je l'avais obligé à prendre les maths en option parce que s'il veut rentrer à Sciences Po, il fallait qu'il les ait. Et puis quand il a su que ça passait dans le tronc commun, là à la dernière minute à la rentrée, on a fait sauter les maths parce que d'un seul coup ça rentrait dans sa moyenne. Et aujourd'hui la réforme fait que t'es obligé de calculer si tu veux ta mention au bac. T'es obligé de c'est un calcul, c'est je vais hanter les maths parce que je vais me viander en maths, c'est bien le fils de sa mère, et je l'ai laissé au télémath pour pas qu'il baisse sa moyenne et qu'il échappe à la mention. Voilà, c'est une réforme qui permet de calculer, enfin qui oblige à calculer.
Qui oblige. Et c'est une catastrophe.
Qui oblige à calculer les gays, voilà.
Dans un instant, bah tiens, on va calculer combien on va dépenser pour le Black Friday. Ce sera avec Stéphane Pedrazzi. Mais le Black Friday, c'est dans 10 jours, mais il est menacé cette année. Ah. On vous expliquera pourquoi.
Rien
et puis, à 14h, si vous pouvez d'ores et déjà nous appeler, ce sera le grand retour des inconnus ce soir sur TF1. Enfin, pas des inconnus, mais de personnalités qui vont rejouer les sketchs des inconnus. Mais pas n'importe quel sketch, non. Les sketchs les moins sulfureux, bien sûr. Et Bioman, bon, bah, il n'y aura pas. Les envahisseurs non plus. Est-ce qu'on peut encore rire de tout à la télé? On vous attend au 32-16. À tout de suite sur
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On va parler conso tout de suite avec Stéphane Pedrazzi. C'est parti.
RMC, Estelle Midi,
la minute conso.
Et Stéphane, comme vous aimez devancer l'actu, nous allons nous intéresser au Black Friday qui a lieu donc dans 10 jours.
Mais ça commence avant, ça commence avant.
Ça commence avant. En tout cas, on en parle dès maintenant dans Estelle Midi. Pourquoi ? Parce que le Black Friday est menacé, Stéphane.
Oui, eBay l'a annoncé la semaine dernière. eBay, vous savez, c'est cette plateforme d'enchères en ligne, mais qui vend aussi des produits neufs. Et eBay a annoncé qu'il ne participerait pas cette année au Black Friday pour ne pas encourager la surconsommation. Alors, c'est une question qu'on se pose tous les ans. Tous les ans, on dit le Black Friday, ça encourage des comportements qui ne sont pas forcément très écolos. Mmh. Et on achète trop de choses. Alors, ça va être intéressant de voir les chiffres du Black Friday cette année, puisque l'an dernier, les ventes déjà en ligne avaient reculé de 32% par rapport à 2020. Alors les professionnels nous avaient dit c'est un retour à la normale, 2020 était une année exceptionnelle, donc on verra comment ça se passe cette année, mais peut-être qu'effectivement la prise de conscience écologique va avoir raison du Black Friday.
En tout cas, certaines enseignes, Stéphane, ont déjà commencé à dérouler leurs offres promotionnelles.
Alors, si vous pensez faire de bonnes affaires, quand même, petite précision, ça n'est pas considéré comme des soldes en France. Et donc, les commerçants n'ont pas le droit de vendre à perte. Vous savez, pour vendre un produit en dessous du prix d'achat, ça ne peut se faire que dans deux occasions, lors des soldes et lors de la liquidation d'un magasin.
D'accord.
Donc, si vous espérez avoir les meilleures affaires du monde à l'occasion du Black Friday, je suis désolé de vous le dire, mais ça ne sera pas le cas. Ça ne peut pas être meilleur que les soldes. Techniquement, ça n'est pas possible.
Jamais.
Donc, ne soyez pas naïfs. Quand on vous annonce 60-70%, c'est forcément quelque part une fausse promo. Alors, facile à vérifier quand ce sont des produits qu'on connaît tous, une tablette, un téléphone portable, un fauteuil de designer. Mais en revanche, lorsque ce sont des produits asiatiques ou des, vous savez, de l'électronique d'entrée de gamme, des accessoires un peu cheap, là, c'est difficile de comparer avec un vrai tarif et donc on ne peut pas mesurer. UFC Que Choisir, l'association de consommateurs, avait fait une enquête en 2020. La moyenne des réductions, toutes catégories confondues pour le Black Friday, était inférieure à 2%.
Mais c'est nul.
2% en moyenne, ça ne veut pas dire que ponctuellement il n'y a pas des offres intéressantes, mais au global, c'est pas très intéressant. Et ce que dit UFC dans ses conclusions, c'est qu'au-delà de 20% de réduction, méfiance, c'est sans doute une fausse promo.
Je suis dégoûté. Il paraît quand même, Stéphane, que c'est le moment de l'année où il y a le plus d'arnaques.
Alors forcément, c'est l'une des périodes de l'année où il y a le plus de ventes en ligne. Donc techniquement, il y a forcément plus d'arnaques. Il y a deux types d'arnaques. Il y a d'abord les fausses promos. Je vous rappelle quand même que la loi a changé depuis le mois de juin cette année. Le prix de base, c'est-à-dire le prix avant réduction, doit être le prix le plus bas pratiqué par le commerçant dans les 30 jours qui précèdent les soldes ou la réduction. Ça veut dire que si une fois pendant les 30 jours, le commerçant a vendu un produit à un tarif bas, avec une promo, eh bien le prix de base, ce sera ce point bas. Et pas la moyenne, comme c'était le cas avant. L'autre type d'arnaque, c'est le phishing, et ça a déjà commencé, j'en ai vu ce matin. Il y a notamment une fausse promo Amazon qui se balade déjà sur les réseaux sociaux, qui vous annonce des produits gratuits pour le Black Friday. Alors c'est pas le monde rien n'est gratuit dans ce monde. On peut faire de bonnes affaires, mais quand même, soyez pas naïfs, lorsque c'est trop alléchant, posez-vous la question de savoir si c'est une vraie ou pas.
Dernière question, Stéphane, pour ceux qui souhaitent malgré tout participer au Black Friday, quel est le meilleur moment pour faire des affaires?
Alors je sais que Perico est super fan du Black Friday.
Ah oui, je le fais toute l'année d'ailleurs.
D'accord, donc il y a trois périodes et il le sait. La période qui précède le Black Friday, on appelle ça la Black Week. Il y a le Black Friday lui-même, donc c'est le 25 novembre cette année. Puis il y a le week-end qui suit avec le lundi pour les ventes en ligne, on appelle ça le Cyber Monday. Et traditionnellement, les meilleurs achats sont le vendredi du Black Friday, donc le 25 novembre, et le Cyber Monday. Ce sont en principe les deux dates les plus importantes. Ça n'est pas comme les soldes, hein. Il n'y a pas des quantités limitées, vous ne risquez pas de ne pas avoir votre taille, et donc ne vous précipitez pas, attendez le 25 novembre.
Ouais, on y va ou on n'y va pas?
Ah bon, on y va.
Ah bon?
Oh bah non, on n'y va pas. Société de consommation.
Oh non, mais tu peux acheter un ou deux produits.
Moi, je ne vais jamais sur les soldes.
10% des Français, selon une étude qui a été menée récemment, supportent le Black Friday pour effectuer l'intégralité de leurs cadeaux de Noël. C'est peut-être l'occasion de payer moins cher.
On va commencer à Emmanuel.
Ah mais moi,
je
suis allergique à cette histoire.
La station essence, elle va où, c'est
le risque d'arnaque. Le risque d'arnaque est beaucoup trop grand.
C'est des arnaques en permanence.
C'est la fête des consommateurs.
Non, mais si t'as un cadeau.
20 km pour.
Si t'as un cadeau à faire, si tu veux moins 20%.
Mais la plupart du temps, c'est des arnaques.
La plupart du temps, il suffit de les regarder.
La moyenne est à moins 2%. Mais ça n'existe.
Il peut y avoir. Un produit chinois bas de gamme, pas connu, bon, ça n'ira pas.
Et un fauteuil de designer.
Non, là, c'est trop cher. Merci beaucoup Stéphane Pedrazzi, tous les jours 13h50 dans Estelle Midi. Dans un instant on parle des inconnus, on a tous adoré les inconnus. Ils avaient arrêté, vous savez, l'émission cultissime, la télé des inconnus, il y a 30 ans, et aujourd'hui ce soir TF1 rejoue avec d'autres personnalités les sketchs des inconnus, mais les sketchs ont été triés sur le volet, bien sûr il n'y a pas de sketch subversif. Est-ce qu'on peut encore rire de tout à la télé, c'est la question qu'on vous pose dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC midi 15h, Estelle Midi.